allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis, ça y est, c'est parti pour votre rendez-vous cuisine et alimentation du samedi. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont là pour nous aider à comprendre ce que nous mangeons et buvons. Il aime débloquer les situations en cuisine et au marché. Yves Candebord est avec nous, bonjour Yves.
Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Laurent.
Il a les pieds sous la table et les mains pleines de bonnes bouteilles. Olivier Pouls est avec nous, bonjour Olivier.
Et oui, mieux vaut ça que l'inverse mon cher Laurent, bonjour, bonjour.
Marion Sauveur est de retour parmi nous. Elle sera là pour son journal de la cuisine. La table des bons vivants allume le feu aujourd'hui. Francis Malman, le grand chef du feu, nous dira tout sur cette cuisine originelle et on ne s'empêchera pas de rappeler les règles d'un bon barbecue. C'est la saison. Jean-Luc Petit-Renaud sera des nôtres. Il nous racontera ses grands moments passés à table avec ses amis chanteurs. Et puis sur les coups de midi, nous partagerons une recette au barbecue de Stéphane Carade, un chef du Sud-Ouest généreux, avec Chantal Latsou. Notre invitée, la comédienne bonne vivante, va mettre le feu à la table des bons vivants. Voilà, vous savez tout. Installez-vous, les amis. Alors, c'est un rituel. On va dire que c'est un petit peu notre apéritif ici à la table des bons vivants. Le goût de la semaine, une adresse, une rencontre, un produit. On va commencer par vous, Olivier Pouls. Tiens, vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, donc on vous laisse la parole.
Oui, je suis remonté de ma cave.
Voilà, vous avez passé tout. Mais il a raison, c'est là qu'il fallait être dans la cave.
Vous êtes trop chaud ici. Alors, bah, écoutez, mon goût de la semaine, justement, j'ai cuisiné pour une petite émission qui s'appelle 4 à table pour TF1, qui sera diffusée la semaine prochaine.
Absolument,
d'ailleurs.
Très bonne émission.
Et on m'a demandé justement de cuisiner au barbecue. Ça tombe bien avec le sujet du jour. Et j'ai fait du travers de porc. Et le travers de porc, c'est une pièce idéale pour le barbecue. J'adore ça. C'est gras, ça croustille vite. Ça cuit admirablement bien. Et un bon travers de porc au barbecue, je l'ai fait cette semaine et j'en ai mangé beaucoup.
Et bon, on le verra dans le trésor de TF1. Ce sera quand? La semaine prochaine? La semaine prochaine. Yves Candebord, votre goût de la semaine, camarade.
Eh bien, moi, j'allais me balader à Arles pour le Festival International de Photos, d'ailleurs, qui est magnifique. Et j'ai déjeuné dans une petite brasserie qui s'appelle Le Voltaire. C'est un cuisinier libanais. C'était juste parfait. Voilà, c'était de la fraîcheur.
Qu'est-ce que vous avez mangé?
Alors, j'ai mangé une petite salade à l'entrée, pastèque, menthe, feta, raisin de Corinthe, bien assaisonné, bien relevé. Et après, j'ai mangé un petit travers, mais d'agneau, qui était avec des aubergines confites, avec un joli basilic, un petit yaourt au curry. C'était succulent, très simple, juste ce qu'il faut quand on se promène dans Arles. On se nourrit, c'est...
Le Voltaire.
De Voltaire, place Voltaire.
Gourmand et frais pour la saison. Eh bien moi, mon goût de la semaine, il prolonge le vôtre un petit peu. C'est le goût du melon. Il faisait quand même très chaud hein, ces derniers jours. Là, ça va un petit peu baisser. On l'espère. En tout cas, moi, je me suis fait une salade de melon, concombre et tome de chèvre ou tome de brebis. C'est vrai que le melon et le concombre sont de la même famille. Ce sont des cucurbitacées taillées en petits cubes, comme ça, avec une belle huile d'olive, un petit peu de vinaigre de vin et puis de la tome de chèvre ou de la feta ou ce que vous voulez. Ça nourrit son homme, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais. Mais ça marche bien.
C'est surtout de saison, Laurent, et c'est vrai qu'on a besoin de ça et on a envie de ça.
Le mois de juillet vient de commencer, il est temps de prendre la température des étals. Alors quels sont les produits de saison, justement, qui vous permettent d'affronter la chaleur? La réponse des Toulonnais au micro de Marion Sauveur. Nous sommes sur le cours Lafayette à Toulon.
J'ai acheté des artichauts, des concombres, des tomates, des radis,
des courgettes, des aubergines, des fraises.
Des légumes et des fruits de saison et le coup.
Allez, je profite d'un fraise à ce.
Alors qu'est-ce que j'ai pris? Des carottes, des radis, des concombres, très bons à cette saison, des tomates, des pêches, des fraises. Il n'y a que ça qui descend en ce moment.
J'ai acheté des haricots verts. Et maintenant, je cherche des oignons blancs. C'est pour accommoder les haricots verts.
Des aubergines et des courgettes. Pour manger assez équilibré. Des poêles et de légumes, principalement.
Eh ben, j'ai acheté la pastèque, le pain au levain, des tomates, des salades pour faire des nems, à ma façon, d'ailleurs.
Voilà, Carantis, merci beaucoup. Hein.
Bonne journée. Oui. N'oubliez pas la monnaie. Bonne journée, messieurs, dames. Très, très important. C'est fou comme la nature est bien faite, quand même. Hein.
Exactement. Vous voyez, on est en été. On a besoin de s'hydrater. Bah, on a besoin de se rafraîchir. Et qu'est-ce qu'on a? Les melons, les concombres, les courgettes, tous des légumes qui sont très riches en eau et qui vont nous apporter tous ces nutriments dont on a besoin.
Donc, allons-y à fond sur le concombre, la pastèque, le melon. On mélange tout ça. On fait de grandes salades. Et puis, il y a aussi... Attention, je vais vous poser la devinette, on va voir si vous trouvez, mais un produit de saison incontournable. Je suis le fruit préféré des Français, on me déguste comme un légume. Je suis.
La tomate,
absolument, elle sera avec nous dans un instant, mais attention, on parle de la vraie. Hein.
Celle de pleine terre.
La pleine terre, cultivée sous le soleil, et on ira la cueillir du côté d'Olioul avec Daniel Vuillon. C'est vraiment l'Astérix de la tomate. Il a parcouru le monde à la recherche des variétés anciennes de tomates et on va les déguster tout à l'heure au micro de Marion Sauveur. Voilà, vous savez tout. Et j'aimerais qu'on écoute, tiens, un petit extrait de cette chanson qui nous ramène à Toulon.
100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figue, voulez-vous?
Les marchés de Provence de Bécaud. De
pêche, l'accent de Provence.
Ben oui, le Toulonnais Gilbert Bécaud. On y était. Faites le marché, hein, si vous êtes sur la route des vacances. Faites les marchés paysans, les marchés producteurs. Allez découvrir votre région en faisant le marché. C'est là que ça se passe, comme nous le disait encore Jean-Pierre Pernaud la semaine dernière. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
À la bella poutine, à la bella poutine, pay, pay, pay.
Avec cette chaleur, c'est le retour des plats 100% fraîcheur à la table des bons vivants. Et quoi de mieux comme ingrédient que la tomate pour ça, hein Laurent?
Juteuse, légèrement sucrée, molle au toucher, on parle de la bonne tomate ce samedi matin à la table des bons vivants. Sa saison vient de commencer il y a quelques semaines et c'est vrai que chaque été, on est content de la retrouver. Et on a mis du temps à l'apprécier en même temps quand elle a débarqué sur le continent, Yves Candebordes.
Oui, parce qu'au départ, on a trouvé les premières tomates, c'est au Mexique. Et c'est les Espagnols qui les ont ramenés.
Les conquistadors. Donc,
les conquistadors qui sont arrivés, qui s'est passé par l'Espagne et par l'Italie. Et nous, les petits Français, on a toujours du mal avec les nouveaux produits. On les a regardés bizarrement parce qu'on pensait que c'était peut-être du poison,
mais oui,
voire que de l'ornement.
Vous savez pourquoi? Parce que les feuilles de la tomate sont toxiques. Et comme les feuilles étaient toxiques, on pensait que le fruit l'était aussi,
tout à
en
fait. Tout à fait. Et c'est parti de Provence, une fois de plus.
Le soleil.
Et c'est eux qui ont commencé à les cultiver et qui les ont fait rentrer, je dirais, un peu dans la gastronomie française. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont indispensables à la gastronomie française.
Alors on parle des vraies, cultivées en pleine terre, sous le soleil. On vous en conjure régulièrement à la table des bons vivants. Arrêtez d'acheter des tomates toute l'année, c'est maintenant.
Et même maintenant, on trouve encore de la tomate en sol. Donc on va vraiment se renseigner auprès de son vendeur. D'où viennent ces tomates? On doit avoir la garantie qu'elles sont de plein champ.
Olivier Pouls, 90% de la production de tomates en France est hors sol. Alors on va encourager tous nos maraîchers qui font de la pleine terre. Et justement, on vous emmène rencontrer Daniel Vuillon à Olioul dans le Var. C'est vraiment, je vous le disais, Astérix au pays de la tomate. Il a parcouru plusieurs pays à la recherche de semences anciennes. Il se bat pour les variétés paysannes, des tomates molles, de toutes les couleurs, biscornues, un peu boursouflées. Et il nous apprend à reconnaître justement le meilleur des tomates au micro de Marion Sauveur, direction Olioul dans le Var. Et écoutez, il y a même les cigales.
On est dans un champ de tomates. Il y a une quarantaine de variétés maintenant qui, sur notre terroir, sous notre climat, donne le meilleur produit possible au niveau de l'assiette.
Et là, justement, devant nous, on a une cœur de bœuf.
C'est la vraie tomate de saison. C'est une variété ancienne, elles ont la forme d'un cœur. Avec les variétés modernes, on a réussi l'exploit de faire de la contrefaçon. On est complètement trompé par le côté visuel, mais après, on est fortement déçu sur le côté gustatif. Il faut demander aux marchands si ces tomates sont cultivées en pleine terre ou en hors sol. Eh bien, le nom de la variété, est-ce que c'est une variété vraiment ancienne ou est-ce que c'est une variété qui vient d'être créée mais qui ressemble à une variété ancienne? Et les vraies variétés anciennes sont des variétés à peau fine, donc fragiles. Elles sont plutôt moelleuses et elles ne sont pas fermes.
Il ne faut surtout pas les mettre au frigo. Hein.
Voilà. Dès que vous allez les sortir, il y a un choc thermique. Le mieux, c'est de les conserver à l'endroit le plus frais de la maison. Et comme ça, elles vont continuer à mûrir tranquillement. Et vous pouvez les garder 8 jours.
Il n'y a plus qu'à se faire une bonne salade de tomates.
Des tranches avec une petite huile d'olive et de la fleur de sel. Petite feuille de basilic. Et normalement, c'est la tomate qui fait tout.
Évidemment, merci Daniel Vuillon, un homme formidable. Au passage, je vous le dis, Daniel Vuillon, c'est le fondateur de la première AMAP de France, la première association pour le maintien de l'agriculture paysanne avec sa femme Denise. Elle s'appelle Les Olivades et aujourd'hui, ils vendent encore directement à la ferme leur variété de tomates. Le drame de la tomate, c'est qu'on a voulu privilégier le calibre et le transport, Yves Candebordes.
Oui, une fois de plus, je dirais, on a privilégié, je dirais, l'emballage. Voilà, on a voulu qu'elle soit bien calibrée, bien brillante, tout identique. Et justement, quand on ne laisse pas faire la nature, il faut la laisser faire ce qu'elle veut. Il faut qu'on l'accompagne, il ne faut pas la contrarier. C'est pour ça que les tomates, aujourd'hui, quand vous les choisissez, surtout quand vous voyez des petites tomates comme des boules de pétanque,
mais oui,
toutes identiques et bien brillantes,
mais oui,
n'y touchez pas. N'y touchez pas, ça, c'est pas la peine d'en manger parce que c'est pas de la tomate.
Elle doit avoir un peu une sale tête, en fait. Oui. Parce qu'évidemment, elle n'a pas pu mûrir de tous les côtés de la même manière. Elle est un peu boursouflée, elle est biscornue.
Exactement, c'est ce qu'on disait. Mais Marion Sauveur nous en a rapporté de chez Daniel Villon. Elles sont magnifiques. Regardez, elles sont toutes molles, justement. Là, on a la vraie cœur de bœuf, pas la côtelée, comme on le disait, qui est une fausse cœur de bœuf, qui est pleine de flotte à l'intérieur. Oui, quand vous coupez une cœur de bœuf, c'est de la chair.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à force de les hybrider, ces tomates, en quelques années, en quelques dizaines d'années, elles ont perdu 50% de leurs nutriments et de leur qualité, notamment en termes de vitamines.
Votre incontournable autour de la tomate pour l'été.
Alors moi, l'été, je l'aime cuite, Laurent. C'est vrai que la salade de tomates, on en mange beaucoup.
Bien sûr.
Moi, je l'aime cuite. J'aime prendre des tomates. En plus, c'est économique. Parce que quand vous allez faire marché, si vous arrivez un peu tard sur le marché, vous récupérez, je dirais, les fins de cajou des tomates, voilà, qui étaient un peu trop mûres, peut-être, qui étaient même un peu éclatées, que les gens n'ont pas voulu acheter. Si vous vous débrouillez bien, vous allez avoir une ristourne. Et après, vous les prenez, vous les mettez dans un plat, un peu d'huile d'olive, du thym, du laurier, et vous les mettez au four à confire tout doucement. Il faut les laisser pratiquement une heure, Laurent, à 120 degrés. Vous les sortez. Et là, il y a deux façons de les manger. On peut les manger en chaude comme ça, ou on les met au réfrigérateur. Et après, ça vous fait tout le temps une genre de sauce tomate naturelle que vous pouvez écraser sur une pâte,
en accompagnement d'une viande,
et voir avec une pointe de gingembre, une pointe d'huile d'olive, en entrée ou en amuse-bouche.
Olivier Pouls, votre incontournable de l'été autour de la tomate.
Alors moi, c'est très simple. Je les amince très finement. Je fais un carpaccio de tomate et je l'agrémente d'une huile d'olive infusée à la vanille. Et la vanille et la tomate, ça marche extrêmement bien.
Ah oui, c'est vrai,
ensemble.
C'est bien ça. Moi, mon incontournable, je vous l'ai fait ici déjà, mais j'y reviens tout le temps. C'est la salade de tomates coupée en quartier. Toutes les variétés est très, très vinaigrée. Beaucoup plus de vinaigre de vin que d'huile d'olive. On laisse dégorger quelques feuilles de basilic et d'oignon nouveau. Et on boit le jus à la paille, exactement. Allez, ne bougez pas. Quoi de neuf du côté de nos assiettes? La réponse, juste après ça, avec le journal de la cuisine de Marion Sauveur. A tout de suite.
Les beaux jours sont là, les vacances arrivent, la saison des barbecues est donc lancée, Laurent. Et c'est pas la table des bons vivants qui dirait le contraire.
Absolument, Justine. La table va souffler les braises du barbecue et de toutes les cuissons au feu ce samedi avec Francis Malman. Le chef du feu sera notre invité dans un instant. Et puis sur les coups de midi, nous recevrons la comédienne bonne vivante Chantal Latsou. Mais pour l'instant, les amis, c'est le grand retour de Marion Sauveur pour le journal de la cuisine. Bonjour Marion.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion.
Merci beaucoup.
Vive la mariée. Et Sardou qui vous accueille pas mal.
C'est magnifique.
C'est une jeune mariée. Elle a fait un beau voyage de noces. Elle revient en pleine forme. On est ravis de vous retrouver, Marion Sauveur.
C'est partagé.
Et bien voici les titres du journal de la cuisine.
Le jambon du Quintoa, le porc basque, vient d'obtenir l'appellation d'origine protégée. L'été est là, la saison du barbecue est lancée et les mœurs évoluent. Le poisson et les légumes ont de plus en plus de succès en grillade. Et les épinards renfermeraient une substance plus puissante encore que certains anabolisants. C'est ce que révèle une étude allemande.
Biba, ça veut dire félicitations en basque, le jambon du Quintoa, le cochon local, vient d'obtenir l'appellation d'origine protégée, Marion.
Ce jambon basque bien goûtu, à la couleur rouge soutenue, il est issu d'une race de porc en voie de disparition, sauvée par une poignée d'éleveurs, les pinoirs du Pays basque. Et bien l'AOP garantit les méthodes de production ancestrales et la zone de production de l'ouest des Pyrénées-Atlantiques à Bayonne et quelques communes des Landes.
3 Français sur 4 possèdent un barbecue ou une plancha et ils vont en user cet été.
Et oui, les Français aiment cuisiner en plein air. C'est ce qu'ils apprécient le plus avec le barbecue, d'après un sondage BVA. En dehors de la viande, la moitié des utilisateurs cuisinent du poisson et des légumes. Certains même des desserts, comme le week-end dernier au championnat de France de barbecue. L'équipe Toc du Roc a remporté le titre avec un sablé fumé au sel de Camargue. Alors on va continuer à parler de la cuisine du feu avec vous Laurent et le chef Francis Malman.
Francis Malman, le grand maître du feu, on va vous le présenter dans un instant, il vient de rentrer dans ce studio. Alors si vous faites des barbecues, attention, respectez bien les arrêtés municipaux. Avec la sécheresse, on ne fait pas des barbecues sauvages, bien entendu, on en parlera tout à l'heure. Les épinards pourraient être bientôt listés comme produits dopants, Marion.
La question est en tout cas posée, puisque les épinards contiennent de l'ecdystérone, c'est ce que révèle une étude allemande soutenue par l'Agence mondiale antidopage. Cette substance améliore la masse musculaire et la performance des sportifs. Ses caractéristiques sont semblables à celles des stéroïdes, cette substance interdite en compétition par l'Agence mondiale antidopage.
Mais voilà le secret de Popeye. Armstrong
va être content. Armstrong va se faire des omelettes d'épinards. Depuis hier et tout ce week-end se déroule le festival Lot of Saveur à Cahors.
La 10e édition parrainée par le chef Christian Constant et qui célèbre la truffe noire du Quercy cette année. Au programme des dégustations de produits locaux, des ateliers culinaires, un grand banquet ce soir, un brunch demain, la soirée des chefs des bonnes tables du Lot demain soir. Et la fête se prolongera tout l'été avec la caravane Lot of Saveur qui fera étape dans 7 communes du Grand Cahors.
Eh bien on y sera, merci beaucoup Marion. Alors barbecue, plancha, four à bois, cuisson au-dessus des flammes, à la braise, la cuisine du feu est multiple. Et pour la maîtriser, j'ai invité un grand chef argentin qui cuisine à la flamme du côté d'Aix-en-Provence, au château Lacoste, c'est Francis Malman. Bonjour Francis Malman.
Ah, bonjour.
On est ravis de vous recevoir. Alors, on vous a vu dans une série magnifique sur Netflix qui s'appelle Chef's Table. On vous a vu maîtriser cet art du feu. Vous êtes né à Buenos Aires, en Argentine. Vous avez grandi en Patagonie, où l'art du feu est dans vos gènes depuis toujours.
Oui.
Depuis toujours, vous cuisinez à la flamme, quoi.
Oui, à la Patagonie, la maison où je vivais avec tous mes frères, et on a vu le cheminée, la cuisine de la cuisine, ça avait été en feu aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans ma sang.
C'est dans vos gènes. Vous oui. avez ouvert votre premier restaurant à 19 ans et vous êtes venu en France pour vous initier à la gastronomie française.
Oui.
Vous êtes passé chez le doyen, Alain Sandrins, Alain Chapelle. Qu'est-ce que vous avez appris justement au contact de tous ces grands chefs?
Bon, ça avait été une époque incroyable parce que je travaillais avec quelques cuisiniers classiques et quelques cuisiniers de la nouvelle cuisine. Ça avait été l'année 80 quand j'arrivais, je restais quelques années. À Paris, un peu partout en France, et je travaillais aussi avec les Trois Gros, avec Raymond Oliver.
Au Grand Véfour.
Oui, avec Thuyer aussi, et c'est une belle maison. Oui.
Vous parlez de cuisine du feu plutôt que de barbecue et de plancha, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons de manier la flamme selon vous. Quand on vous écoute, vous dites qu'il y a 7 feux différents. Expliquez-nous un peu ça.
On a le barbecue, on a la plancha, on a le four en bois. On cuisine beaucoup dans les cendres. Ça, c'est délicieux pour les légumes et aussi pour le pain. On fait directement dans les cendres le pain. Et après ça, on fait aussi en trou avec des choses très, très chaudes.
Vous mettez de la braise dans un trou, c'est
oui,
ça hein?
Oui, c'est ça.
Et vous mettez une pièce entière de viande dedans?
Oui, avec des pierres qu'il faut chauffer pour 4-5 heures. Et ça, c'est délicieux. C'est quelque chose qu'on fait à la Patagonie depuis 13 000 ans.
Alors on va continuer de parler grillade et rôti avec vous Francis Malman, le chef qui transmet la cuisine du feu telle Prométhée, les règles d'un bon barbecue, d'une belle plancha, et puis vous allez voir des cuissons iconoclastes avec Francis Malman. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Jusqu'à midi et demi, vous êtes à la table des bons vivants. Une table qui a décidé aujourd'hui de dire non au four et oui au barbecue. Et pour être le pro de la braise, Laurent a trouvé l'invité parfait.
Vous êtes peut-être sur la route des vacances, vous allez probablement faire des barbecues. Alors encore une fois, respectez bien les règles et les arrêtés municipaux. Pas de barbecue sauvage. Nous sommes avec Francis Malman, justement, le chef qui cuisine au feu depuis 20 ans. Le barbecue, c'est vrai qu'on a beaucoup changé les règles du barbecue avec le charbon de bois tout fait, avec des barbecues de plus en plus de compétitions. C'est quoi pour vous, Francis Malman, le vrai barbecue, la façon de vraiment réussir son barbecue, qu'il soit primitif ou évolutif?
Moi, je pense que le premier ingrédient, c'est la patience. Alors, il ne faut pas être pressé pour faire le barbecue. Il faut prendre le temps et il ne faut pas courir. Il faut avoir de bons bois, un bois dur.
Du chêne, du charme, du hêtre.
Et c'est ce qu'on fait. On a un feu qui est la mer et après, on fait le barbecue à côté.
Ah, une source.
À une source, oui, exactement. C'est très important, ça.
Mais c'est ça ce que vous dites, c'est vrai, c'est la patience, le premier ingrédient, parce que souvent, on démarre le barbecue beaucoup trop tôt et il est seulement bien en température quand on a fini le barbecue, en fait, souvent,
oui,
quand
oui,
on est amateur.
Arrive. Oui, et il ne faut pas courir, il faut avoir tout là. La mise en place doit être là, parce que c'est un peu comme le risotto. Il ne faut pas quitter le grill, il faut être là tout le temps, parce que ça change tout le temps. Et moi, pour moi, les choses plus importantes, c'est tourner les choses uniquement une fois. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça.
Non, on ne fait pas tchac-tchac sans arrêt.
Il faut respecter le premier contact de la viande, le poisson, ou le légume sur les grilles et le tourner quand on pense qu'il est prêt.
Et une grille pas trop prête des braises non plus, assez haute.
Ah, ça dépend de la taille de la viande ou du poisson. Il y a quelques fois que je fais des choses très rapidement sur le charbon. Et quelques fois que je fais beaucoup de choses pendues pendant 10 heures.
On vous voit effectivement mettre des pièces entières, des poulets pendus au-dessus des braises. Ouais. Donc c'est une cuisson fumée là.
C'est fumé, mais c'est aussi, par exemple, le poulet arrive à être très craquant aussi. Mais il faut les monter, les descendre, ça dépend du vent. Le pire ennemi du grill, c'est les vents. Parce que les vents changent tout.
Les légumes aussi se plaisent bien au barbecue.
Ah oui, et dans les cendres aussi.
La pomme de terre, c'est un de vos tubercules préférés, ça, et oui. Vous adorez la mettre dans la cendre. Hein.
Oui, dans les cendres, c'est très bon. Et les cendres blancs, c'est très important. Pas uniquement le braise, mais les cendres, parce que les cendres donnent beaucoup de goût et il fait en couche qui garde la chaleur.
Alors, on a l'image justement du feu qui sert à griller la viande, mais avant tout, ça vient de l'homo erectus, Olivier Pouls. Hein, c'est pas récent, cette histoire de cuisine au feu.
Au nom des bien vieux ancêtres à nous, 400 000 ans, vous vous rendez compte. Mais c'est une évolution majeure, évidemment, dans la préhistoire. Hein, c'est à partir du moment où l'homme commence à cuire ses aliments, ça va tout changer, parce que ça va lui permettre de digérer des aliments qu'il ne pouvait pas manger cru avant, donc de changer son alimentation. Ça va avoir une répercussion très importante sur sa manière de vivre. Et puis, il y avait déjà plusieurs modes de cuisson à l'époque, hein, du temps de ces préhistoriques. Ils aimaient eux aussi la pierrade, par exemple, sont parmi les premiers modes de cuisson. Ils chauffaient des pierres.
La pierrade, c'est inventé par l'homme préhistorique. C'est drôle,
c'est pas uniquement en Savoie. C'était un mode de cuisson très répandu. Donc, ils chauffaient les pierres. Et une fois que les pierres étaient chaudes, ils posaient la viande ou les ingrédients directement dessus. Puis, ils ont rôti aussi, parce qu'on a retrouvé des traces de broches qui avaient plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années, et même la cuisson à l'étouffée, ils savaient la faire à l'époque, en enrobant par exemple des aliments dans de la panse de ruminant, vous savez, ça donne lieu par exemple qu'on continue à le faire, le fameux haggis écossais.
Ben oui.
Exactement, ou alors ils pouvaient cuire également sous la braise, déjà ils faisaient ça. Et donc voilà, ce sont les ancêtres de nos barbecues, c'est à eux qu'on doit tout ça, mais c'est vrai que ça a tout changé.
Mais quand on lit le sociologue Claude Lévi-Strauss, il dit que le feu marque le passage de l'existence animale à l'existence humaine. Ce que vous faites, Francis Malman, c'est que vous revenez aux fondamentaux de la cuisine. Au feu, tout simplement.
Oui, je n'ai rien inventé. J'ai embrassé les choses du passé. Voilà.
Alors, vous avez une recette qui est incroyable, que vous servez d'ailleurs au Château Lacoste à Puy-Sainte-Réparade en Provence. C'est cette entrecôte. Parlez-nous de votre entrecôte cuite à la braise, à la flamme, fumée. Oui. Comment doit-on dire ?
C'est pendu, premièrement, et 12 heures. Et après, on le coupe et on le fait dans la plancha.
Vous laissez l'entrecôte donc fumer au-dessus
12 heures.
12 heures au-dessus de la flamme, oui. Au-dessus de la braise, au-dessus de quoi ?
Deux choses.
Les deux choses.
Oui. Très haut.
Très haut. Et ensuite, vous la passez directement sur le grill.
Non, à la plancha ou dans le grill. Ça dépend du client. Oui.
Alors, on a quelque chose de très tendre, résultat.
C'est très, très tendre, c'est délicieux.
C'est vrai que c'est assez extraordinaire de voir cette maîtrise du feu. Le feu, c'est quand même l'essence même de notre cuisine. On a tellement de jeunes chefs aujourd'hui qui ne savent plus maîtriser la flamme, qui ne savent plus rôtir. Mais Dieu sait si rôtir, c'est un fondamental de notre cuisine.
Oui, attention quand même, parce qu'on parle beaucoup de flamme et de feu, mais surtout au barbecue, il ne faut pas qu'il y ait la flamme, surtout. Il ne faut pas qu'elle y soit.
Eh bien, on va en parler justement, c'est notre prochaine partie. Quelles sont les règles à bien respecter pour la cuisine au barbecue et la cuisine à la flamme ? On en parle avec Francis Malman, parce que c'est vrai que ça peut être toxique, cette flamme trop près des aliments. Ne bougez pas, on vous donne la réponse juste après ça. A tout de suite.
Comme toujours, la table des bons vivants vous donne les bons plans recettes de la saison. Et ce qui est sûr, Laurent, c'est qu'on peut en faire beaucoup au barbecue.
Du bœuf de Galice, de l'agneau du Luberon, des pommes de terre Anna à la cendre. On en fait des choses sur la braise et sous la cendre avec notre invité, le chef Francis Malman, le grand maître du feu. Alors vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, oui. Francis Malman. Et on vous voit de temps en temps effectivement mettre des grilles géantes ou des plaques géantes et cuire comme ça avec le feu et la flamme en dessous. Et parfois, on voit effectivement que la flamme lèche les ingrédients aussi. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça ? Parce qu'on sait qu'il ne faut pas non plus trop brûler les ingrédients avec la flamme.
Non, la plancha, c'est bon pour brûler. Mais la flamme, il faut faire attention. On utilise la flamme, mais toujours des côtés et loin.
C'est-à-dire, jamais au contact direct.
Non. Par exemple, l'agneau entier, on le fait pendant 7 heures. À côté du feu, à la flamme. C'est délicieux. mais tous les fumées et les chaleurs plus brutales montent.
Dans votre restaurant Château Lacoste en Provence, vous servez un dessert qui est une salade de fruits frais et brûlés, avec un ananas à la braise. Alors quand vous dites brûler, c'est brûler comment alors? Parce qu'on sait que justement que le brûler, faut pas...
À la plancha.
À la plancha.
On la brûle un peu à la plancha. Tout le légume et les fruits qui ont en dessus, par exemple la pêche brûlée, un peu brûlée, qui reste encore froid dans le milieu, c'est délicieux. Et on le serve avec un peu de crème fraîche et aussi d'un liqueur d'amande.
Alors, on a parlé ici avec le nutritionniste Afid Alol de l'importance de mariner aussi les viandes, les poissons et les légumes et les fruits pour éviter que ça s'oxyde à la cuisson. Vous pratiquez l'art de la marinade aussi?
Non, moi, j'aime pas beaucoup la marinade. Je crois dans les contrastes. J'aime bien cuire les choses naturellement et après les donner de goût et pour avoir un contraste.
Sachant que la marinade, en fait, souvent, elle ne sert pas grand-chose parce qu'il faudrait mariner pendant des heures et des heures, voire deux ou trois jours.
Oui.
Si c'est pour mariner 30 minutes avant, ça ne sert strictement à rien. La marinade n'a pas le temps d'imprégner vraiment les produits.
Et puis, il y a le fait aussi que quand c'est mariné, quand vous le mettez sur barbecue, c'est là que ça peut déclencher la flamme.
Oui, oui, voilà. S'il y a de la matière grasse dans la marinade, effectivement.
Ouais. L'huile, elle dégouline, elle tombe dans le feu.
Parce que Laura, il faut aussi dire que quand les ingrédients sont, surtout les viandes, quand elles sont un peu brûlées, ça peut être cancérigène. Il faut vraiment ne pas les consommer à ce moment-là.
Un incontournable, Francis Malman, tiens, avant de se quitter, pour nos auditeurs, un morceau à cuisiner, tiens, ce week-end au barbecue à la plancha. Qu'est-ce que vous leur conseillez et quel type de cuisson?
Moi, j'aime beaucoup une côte de bœuf avec l'os et faire les lentement, uniquement avec du sel. Moi, j'utilise du sel des mers, bien sûr, d'un côté. Et par exemple, si je veux le cuire et 12 minutes, je fais 8 minutes de le premier côté et après 4 de l'autre.
À la plancha ou sur la grille du barbecue, ça?
Non, dans les grilles. Et après, bien sûr, le chimichurri, que c'est
la petite sauce.
C'est la sauce nationale, que c'est des oregano, du persil, de l'ail, un peu de sel et d'huile d'olive.
C'est bien, c'est ce qu'il nous faut pour l'été. Merci Francis Malman d'être venu à la table des bons vivants et on vous retrouve donc à ce magnifique Château Lacoste à Puy-Sainte-Réparade en Provence. Bon retour en Provence et merci d'être venu à la table des bons vivants, Francis Malman.
Merci, merci à vous, merci.
Europe 1, 11h30. Laurent Mariotte.
Ça y est, c'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Alors, vous le savez, son truc à lui, c'est l'escapade. Il nous donne rendez-vous dans une belle brasserie parisienne pour se souvenir, écoutez bien, de ses amis chanteurs et poètes, de beaux compagnons de la fourchette, comme il dit. Bonjour, bonjour, l'ami Jean-Luc.
Bonjour, les jolis camarades. Eh bien, écoutez, je suis à la Closerie des Lilas. C'est un lieu, comme on sait, où on vient en même temps manger et croiser les plus beaux artistes. Eh bien, j'avais envie de parler de quelques amis comme ça que j'ai eus, qui étaient des gens de la fourchette. Alors, j'aurais commencé cette balade par Saint-Rémy de Provence, histoire de dire bonjour à mon Charles Aznavour, qui avait ses habitudes au bistrot de Marie, au centre de la ville de Saint-Rémy de Provence, et où il venait toujours goûter sa chéchouilla, c'est une sorte d'aubergine à l'ail, aux tomates et tout, que l'on sert glacé à l'huile d'olive. Il fallait toujours qu'il passe en cuisine pour la goûter. Il me faisait goûter aussi en me disant « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Alors après, ben, je remontrais toujours un peu, mais de manière joyeuse, j'irai dans l'île de Saint-Louis, saluer la mémoire du camarade Georges Moustaki, qui était un homme absolument délicieux. Je me souviens d'un tournage dans son appartement, et lui est passé en cuisine pour moi, et m'a fait aussi un plat grec d'aubergines farcies à sa manière, et avec cette voix absolument sublime, la voix de Milord finalement. Je continuerai mon chemin, mais peut-être en partant, j'emmènerai le camarade Moustaki avec moi en Ardèche. On y serait allé en moto sur sa BMW blanche. Et puis on aurait retrouvé Jean Ferrat, à mon avis, qui serait en train de pêcher la petite truite Fario qu'il adorait cuisiner. Et puis on aurait chanté « Que la montagne est belle », bien entendu. Comme quoi, finalement, ces jolis poètes n'ont pas besoin de fleurs ou de couronnes. Ils ont envie d'avoir toujours de belles assiettes ouvertes vers le joli ciel bleu de l'été.
Mais comme c'est bien dit, on y était, une belle balade ça.
C'est une belle balade.
C'est joli de convoquer ses amis comme ça. Souvenons-nous de nos amis et de ces grands chanteurs qui nous font du bien et c'est magnifique quand on est chanteur.
Réécoutons-les en déjeunant.
Exactement, c'est immortel, on peut les réécouter avec une belle table. Comédienne, populaire, talentueuse, on l'aime aussi pour son franc-parler, la bonne vivante Chantal Lapsou est notre invitée juste après ça. A tout de suite sur Europe 1, bon samedi sur la route des vacances ou à la maison. A tout de suite.
Europe. Europe 1.
Le samedi de 11h à midi et demi, vous êtes invité à la table des bons vivants. Une table qui ne se désemplit pas aux côtés de Laurent Mariotte, bien au contraire.
Merci d'écouter la table des bons vivants, les amis, les camarades. Olivier Pouls et Yves Condebord sont à mes côtés. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Elle est née à Roubaix, dans le Nord. Enfant, elle ne tenait pas en place. Plutôt que de rester à table, elle préférait monter dessus pour amuser la galerie. C'est ce qu'elle fait en suivant les cours Simon à Paris. Révélée au grand public dans la classe de Fabrice sur France 3, elle emballe les Français avec son humour pince sans rire. Les Amazones, Nelson, entre les pièces de théâtre et ses One Woman Show, elle remplit les salles depuis des années. Elle est à l'affiche d'une comédie qui sort début août. Chantal Latsou est notre invitée. Bonjour Chantal.
Bonjour. Bien accueillie avec des bons comptés, là. C'est formidable.
Alors on nous a dit que vous adoriez ça.
Ah, c'est une émission où on peut manger, ça c'est génial. Ça.
Et on peut parler la bouche pleine.
C'est formidable, j'ai très mal élevé, mais j'adore ça.
Vous êtes la bouche une pleine. Vraie bonne vivante, Chantal Latsou.
Oui, c'est vrai. Oui.
Je vous connais depuis un petit moment maintenant.
Vous Simon, ne changez pas.
Mais vous non plus. Tant qu'on se reconnaît, tout va bien. On parlait de René Simon, les cours Simon, qui vous a dit d'ailleurs, toi tu as un emploi tardif, tu réussiras très tard.
Oui, il m'a dit ça. Hein? Incroyable. Hein?
C'est incroyable.
Il m'avait vu faire une scène dans une classe et il m'a dit, toi, t'as une autorité, j'avais 23-24 ans, t'as une autorité naturelle, tu vas pas faire des jeunes premières. Ça marchera beaucoup mieux quand tu seras en osmose avec ta voix.
Et il l'avait bien vu parce que ça fait une trentaine d'années qu'on vous connaît. Vous avez été révélé par Fabrice dans la classe de France 3. Et c'est un peu quand même René Simon qui est votre ange gardien parce que Fabrice est le fils de René Simon.
Exactement, c'est la amusant. Suite. C'est incroyable. Hein. Vous avez mis le doigt dessus, c'est fou parce que je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, effectivement, c'est ça. Oui.
C'est marrant ça quand même. Alors, vous revenez avec une comédie qui sort le 7 août que j'ai vue hier soir. C'est quoi cette mamie? Alors, où on vous voit jouer le rôle d'une mamie complètement déjantée et fêtarde. En plus. Hein.
Déjantée, fêtarde, 68arde, elle a fait des concerts à Londres, elle est partie partout, Woodstock et compagnie. Elle a envie d'être libre, de ne pas s'emmerder avec ses petits-enfants. Ce sont des familles décomposées, recomposées.
Ah, hein. Oui,
c'est
oui.
Le
ils
premier, d'ailleurs, il y avait déjà eu un premier volet où j'avais le rôle un peu moins important, mais j'étais présente. Et là, maintenant, le rôle est beaucoup plus sympa parce que j'ai pu l'étoffer, j'ai pu aller plus loin dans cette mamie.
Vous cuisinez dans la vie, Chantal Latsou?
Je cuisinais pas mal, mais mon mari s'y est mis, parce que depuis que je travaille beaucoup, puis lui, il adore ça. Il adore cuisiner, il invente. Condebord, c'est une invention, non hein? Alors, c'est ce que je dis. Il adore accommoder les restes. Il faut que je fasse attention en disant ça, parce que ça peut être pris mal, si tu veux. Il adore, par exemple, il trouve une vieille carotte dans le frigo, une vieille tomate qui a une sale gueule, et bien il en fait un truc génial. Quoi.
C'est la vraie cuisine.
Il met du miel, il met une petite herbe, il trouve des trucs, un bout de citron, un truc. Il invente.
Est-ce que vous aimez la vinaigrette, Chantal?
J'adore ça, mais il faut qu'elle soit bien faite. Il a fait très bien, lui. Vous voyez, je l'aime encore. 47 ans de mariage.
C'est beau. Voilà une déclaration d'amour sur la vinaigrette. Eh ben, on va continuer à vous faire aimer la vinaigrette avec Yves Condebord à vos côtés, Chantal, qui va nous réconcilier avec ce monument de simplicité qui est parfait pour l'été. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop la vinaigrette, Yves Condebord, et c'est bien dommage quand même. On va essayer de les réconcilier.
Oui, parce que je pense que c'est vraiment la sauce de l'été. Parce quand il fait chaud, une vinaigrette bien acidulée, bien équilibrée, c'est merveilleux.
On rappelle les bases pour réussir une bonne vinaigrette. Déjà, les trois essentiels.
Voilà, les trois essentiels, c'est un corps gras, une acidité et une aromate. Voilà, c'est la base. Voilà, c'est la base classique de la vinaigrette. Alors, c'est vrai que les gens souvent savent pas les quantités.
Alors, les proportions. On
va prendre pour quatre personnes. C'est une cuillère à café de moutarde, un peu de sel, un peu de poivre. On le dissout. On rajoute une cuillère à soupe de vinaigre, de vin, pour faire une vinaigrette classique. Et après, on rajoute entre 2,5 à 3 cuillères à soupe d'un corps gras, par exemple une huile d'olive ou une huile d'arachide.
Donc il y a un ordre à respecter. D'abord la moutarde, l'assaisonnement.
Parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait.
Le vinaigre et l'huile.
Et c'est comme ça que ça se fait. C'est là qu'on a le résultat optimal. Alors moi j'ai ma petite astuce par rapport à ce vinaigrette-là. Moi j'aime bien y rajouter une petite cuillère d'eau dedans. Parce que ça va la rendre un peu plus fluide, un peu plus légère. Et surtout je la mets dans une bouteille, Laurent.
C'est ça, alors vous la faites à l'avance.
Fais à l'avance et je la mets dans une bouteille au réfrigérateur. Et là, je peux la garder entre 10 et 15 jours sans aucun problème.
Pour la boire au goulot tous les matins?
J'ai essayé, mais ça ne fait pas un bon résultat. Faites la gueule de bois quand même.
Et alors, il y a des gens qui mettent un jaune d'œuf dedans.
Alors, on peut mettre un jaune d'œuf, mais après, je dirais, on a cette base-là. Et après, chacun, personnellement, on peut l'agrémenter différemment. Mais l'histoire de la bouteille, c'est super malin. Oui. Parce que quand vous l'avez au frigo, vous la prenez, vous checkez comme un checker. Ah ouais. Elle se mélange et vous pouvez la déposer sur l'ingrédient que vous voulez.
On hésite parce qu'il faut faire la vinaigrette, il faut laver la salade. Oui. Déjà laver la salade, c'est pénible. Et là, il faut on en a la vinaigrette toute faite. C'est une bonne idée. Quand
non, mais elle a raison, Chantal, là-dessous. Il faut penser aux variantes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme variante avec la vinaigrette?
Alors, une fois qu'on a une vinaigrette, je dirais, de base comme ça, on peut y rajouter un ail haché, on peut y rajouter du gingembre râpé, on peut y rajouter des herbes. Si vous faites un petit poisson à la vapeur, vous pouvez y mettre un peu de gingembre. Vous pouvez y mettre un peu de safran,
du
vinaigrette de safran posé comme ça sur le poisson à la vapeur. Ça vous fait de suite un peu d'esprit dans votre plat.
Mm. Alors vous avez un truc aussi avec la carotte, une vinaigrette où vous twistez la carotte en forme de purée. Racontez-nous.
Alors ça j'adore ça. Alors avec les barbecues, ça marche à tous les coups. Je fais une purée de carotte liquide, très classique, dans de l'eau. Ouais. Je les égoutte, je les mixe, je récupère un peu de cuisson, je rajoute une cuillère de moutarde, de l'huile de sésame, un peu de sauce soja, un peu de gingembre râpé. Ça me fait un jus de carotte bien acidulé que je peux utiliser avec une viande au barbecue, que je peux déposer sur une salade et à l'apéritif avec des bâtonnets de légumes.
Oh, c'est bien.
C'est simple, c'est frais
c'est
et surtout
mal,
c'est léger.
Elle boit vos paroles, Chantal.
Oui, c'est vrai, c'est bien. On cherche toujours des idées.
Est-ce que je peux donner une petite variante aussi?
Oui, Olivier Pouls.
Eh bien, moi, j'écrase des framboises. J'utilise un petit peu de vinaigre de xérès.
Et c'est bien
de
ça,
l'huile
oui.
d'olive, ça aussi, on écrase bien le tout, ça donne une vinaigrette un peu acidulée comme ça qui est très intéressante.
Incroyable.
Parce que Laurent, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas carrément avoir de l'huile ou qui n'aiment pas le vinaigre. On peut faire une vinaigrette très simplement, fromage blanc 0%, comme ça on est très light. On va y rajouter dedans un jus, soit de citron vert, pourquoi pas un jus de passion, pourquoi pas un jus
de rhubarbe. Pour remplacer le vinaigre.
Pour remplacer le vinaigre, amener l'acidité, on remet dessus juste une herbe ciboulette, on a une petite sauce très légère, facile à faire.
Rien n'est figé en cuisine, Chantal.
Rien n'est figé, c'est ça, c'est l'invention.
C'est comme vous, de la folie.
Hein. Mais c'est de la folie.
Faut être dingue. Je suis d'accord.
On est des dingues. Bientôt midi sur Europe 1, on se retrouve dans un instant avec Chantal Latsou. Et on est ravis qu'elle soit à notre table pour la dernière de la saison, avant de se retrouver tout l'été à la rentrée, bien entendu. Et on se retrouve avec Chantal juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite et bon samedi sur les routes ou à la maison. Sur Europe 1, à tout de suite.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Tomates de pleine terre, cuisson au feu, des huîtres au barbecue dans un instant. La table des bons vivants voit rouge ardent ce samedi. Et doublement avec Chantal Latsou, notre invitée à l'affiche de C'est quoi cette mamie qui sort le 7 août. Une belle comédie. J'ai oublié de vous demander, tiens Chantal, quel est votre goût de la semaine?
Mais moi, j'aime beaucoup le comté. C'est un truc qui existe à la maison tout le temps. On le prend, le comté, 18 mois d'affinage.
Alors, vous en avez mis un, là, justement.
J'ai tout mangé, déjà.
Mais c'est vrai.
Il reste que la croûte. Ah, ben, je ne peux pas quand je vois un comté comme ça. En plus, il est délicieux, légèrement fruité.
Ouais, hein. Très, très bon.
Il est très bon, donc j'adore ça. Et c'est un petit peu mon péché mignon, j'adore. Et si vous une grande tranche de comté ne reste pas longtemps à la maison.
Et je suis assez d'accord avec vous, 18 mois d'affinage, je trouve que c'est un bon timing, parce qu'après, c'est ça a tendance à sécher parfois un petit peu.
Il y a les petits grains de sel qui croquent aussi
on
à l'intérieur.
Oui, un petit peu le grain.
C'est pas un peu trop sec parfois. Et alors, avant, c'est trop jeune. Mais 18 mois, c'est pas mal. C'est
parfait.
Une bonne idée de nous avoir amené ça.
Parfait.
C'est un demi-vieux. C'est
oui,
bien.
Oui, c'est bien les demi-vieux.
C'est bien. Dans le film, vous nourrissez vos petits-enfants à la junk food. C'est une catastrophe.
Hein. Ah oui, des bonbons, des tafres, tagada, des gâteaux, des trucs.
Des pizzas.
Je m'en fous, en fait.
Il y a le petit, là, qui s'appelle... Comment il s'appelle? Dormeur. Oui, alors ça, c'est génial.
Je les appelle les sept nains, ils sont sept.
Elle les appelle les sept nains, ces petits-enfants, parce qu'elles sont fous, elles ne retiennent même pas leur prénom. Et il y en a un qui est dormeur, il y en a un qui est prof. Et vous qui avez passé votre enfance dans le Nord, Chantal Latsou, c'était quoi le menu à table? On mangeait quoi?
C'était de la purée, c'était du pot-au-feu, c'était des choses roboratives un petit peu. Hein. Moi, j'aime bien, par exemple, j'aime bien les mirontons. J'aime bien le pot-au-feu. Quand je fais un pot-au-feu, mes enfants accourent. Si je veux les voir, je dis, j'avais pas un pot-au-feu, vous venez?
C'est ça.
Là, je suis sûr qu'ils vont venir.
Ça marche. Mais
ça marche. Ou alors ma blanquette de veau. J'adore ça. Et je me souviens, avec pot-au-feu chez moi, il y avait de la buée sur les fenêtres de la cuisine parce qu'on faisait cuire les pommes de terre à côté. Tout ça, c'est des souvenirs d'enfance. Et puis ça sent bon en plus quand ça cuit.
Et puis c'est diététique le pot-au-feu, contrairement à ce qu'on pense. Ce sont des viandes pochées avec des légumes.
Si on le dégraisse bien.
Si on le dégraisse, il faut le dégraisser. D'abord, il faut l'écumer. J'écume.
Très important.
J'ai vu souvent des gens qui n'écumaient pas au départ.
Ah bah non, c'est une erreur.
Vous écumez quand même.
C'est une erreur professionnelle.
Je vois que t'écumes. Je sens bien que t'écumes.
Et des parts au froid.
Jamais faire revenir la viande, ni dans la blanquette. Et après, tu dégraisses.
Ouais.
Tu laisses ton truc sur la terrasse. Tu ne le manges que le lendemain, le bouillon.
C'est ce que je fais. Moi, je laisse dans le garage, par exemple.
Non,
au frais.
Attendez, il faut être à Roubaix pour faire ça. Si vous êtes à Marseille, ça ne va pas.
Oui, il a raison. Il faut être dans
le Nord. Il est sur la terrasse, été comme hiver, ça dégraisse.
Dans les Vosges, ça marche. Pareil, tu le dégraisses en le laissant dans la grange.
Ça marche pas dans le sud.
Mais bien sûr.
Et vous enlevez le gras qui est au-dessus et vous mangez le bouillon. Oh, le bouillon.
Avec les yeux dedans.
Les yeux dedans.
La saison des barbecues est ouverte, Chantal Latsou. Vous pratiquez l'art du barbecue ?
Pas trop. C'est mon fils qui le fait en général. C'est un barbecue qui est dans la terre, en fait. C'est un trou dans la terre avec une grille au-dessus. Et on fait des trucs comme ça.
Et bah comme Francis Malman, le chef argentin qui était à votre place il y a quelques instants, justement, qui pratique cette cuisson des braises.
Il était là, ma place. C'est vrai que je sens l'Argentine. C'est vrai. Oui, oui, c'est...
Les braises, peut-être.
Je sens les braises sur mon fauteuil.
C'est la chaleur. Alors, on vous emmène maintenant dans le sud-ouest avec Stéphane Place, le correspondant d'Europe 1, qui est allé voir un autre Stéphane, Stéphane Carade, qui est un chef étoilé qu'on aime beaucoup à la table des bons vivants. C'est le chef du restaurant Aïdza à Pilat-sur-Mer, sur le bassin d'Arcachon. Et il nous prépare, Chantal, écoutez bien, une recette d'huîtres au barbecue que vous pourrez refaire ce week-end. C'est simple et c'est étonnant. Écoutez bien, Stéphane Carade au micro de Stéphane Place.
On a des huîtres entières. Quand tu cuisines un peu, il faut du charnu, je fais de la numéro 1. Et là, j'utilise ce que c'est des copeaux qu'on met normalement dans les cuves de vin, tu sais. C'est du chêne. Et ça, je vais le mettre dans la braise et ça va donner le côté fumé, le côté chêne.
Et là, ça dégage un parfum, tu sens ?
Ouais.
Stéphane, on a placé ces huîtres dans ce barbecue qui, en fait, dispose d'un couvercle. Et évidemment, on ferme le couvercle.
Tout ça pour que l'huître, bien sûr, s'ouvre. Elle prenne toutes les odeurs, les goûts du bois que je viens de mettre. Donc, c'est grillé, fumé, quoi. Tu sais, j'ai rien inventé. Les ostréiculteurs le font quand ils reviennent avec les plates. Tu sais, les plates, c'est leur bateau, là. Ils mettent leurs sacs, ça s'appelle les ambulances. Ils les ouvrent et quand ils ont un peu faim, ils se font un barbecue. Et ils mettent leur huître sur barbecue. C'est leur petit casse-dalle, quoi. Et t'as l'huître avec la chaleur qui va cuire dans leur jus. Quand j'ai mis, c'était vert clair. Maintenant, elles sont vert foncé. Tu vois, ça s'ouvre le jus. Tu vois le jus là ? Donc, je la retire. Hop. Voilà. Une par une, elles vont s'ouvrir.
Et on découvre l'huître à l'intérieur, évidemment.
Ça. T'as vu ça un peu ? C'est charnu. C'est l'équivalent d'un steak bleu. Tu vois, on va en goûter une comme ça, nature.
Et on garde absolument toute la saveur de l'huître.
T'as l'huître, t'as le côté fumé, c'est léger. Allez, on va l'assaisonner, on va les sortir les autres, on va les assaisonner. Je mets un petit peu de sauce ponzu. Ponzu, c'est une sauce au soja avec un petit peu d'agrumes. Hop, regarde. Ça, en dégustation, ça vaut le coup.
Bah évidemment que ça vaut le coup. Et puis cette petite note asiatique par-dessus, c'est super, ça, Yves Candebord, ouais, vous validez.
C'est très très bon de le faire comme ça. Surtout, en plus, il faut savoir quand vous la mettez, donc vous ne l'ouvrez pas, vous la mettez, il la met, oui. Stéphane, il la met entière sur barbecue, elle s'ouvre toute seule en plus.
Vous essayerez, Chantal Latsou ?
Moi, j'aime bien les huîtres comme ça, telles quelles, au cul du camion.
Oui, mais l'avantage de la faire comme ça, c'est qu'en fin de compte, la texture de l'huître reste comme si c'était une huître crue.
Ah.
Parce qu'elle s'ouvre, elle se tiédit.
C'est-à-dire que ça évite de les ouvrir et de se blesser.
On
n'a
pas à les ouvrir, mais on les attiède avec une structure de crue. Et ça garde vraiment tout le iodé.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls ?
Ben, l'iodé, ça me permet de parler d'une appellation que j'aime beaucoup, qui n'a plus vraiment la cote, et c'est tellement dommage. C'est un beau muscadet, un muscadet du Sèvres-et-Maine. C'est un vin qui claque bien comme ça, avec cette finale un peu saline, et qui va réveiller l'huître aussi, enfin qui va lui donner du tonus.
Ah oui, c'est bien, réveillons l'huître.
Réveillons l'huître, alors.
Et un petit clin d'œil à Stéphane Carade, le chef qu'on vient d'entendre, que j'ai rencontré moi il y a une quinzaine d'années, et qui m'a fait découvrir une salade géniale, un accord tout simple que vous pourrez refaire cet été. C'est les haricots beurre. Vous connaissez les haricots beurre,
oui,
hein, dans
sûr,
le Nord,
oui, oui.
Vous en faisiez. Comme
les haricots beurre, ils sont jaunes.
Ils sont jaunes, exactement, ouais. Avec des pêches. Une salade de haricots beurre avec des pêches et un beau filet d'huile d'olive, tout simplement.
Ça, c'est énorme. Et cette saison.
Et cette saison, exactement. C'était la cuisine de Stéphane Carade à l'hôtel Aïdza au Pilat-sur-Mer. Un Béarnais comme vous, Yves Candebord, d'ailleurs.
Un compatriote. Ils sont très grands cuisiniers.
Ils sont partout. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec Chantal Latsou et nous allons répondre aux questions que vous avez posées sur le 39-21. Vous allez nous aider à y répondre, Chantal.
Mais absolument, j'ai posé les questions, moi.
Vous allez répondre.
Bah, bon, d'accord, je vais répondre.
Suite.
Jusqu'à midi et demi sur Europe 1, on accueille tous les bons vivants autour de la table dressée par Laurent Mariotte et toute son équipe.
Merci d'être là, nous sommes en bonne compagnie. Chantal Latsou est notre invitée ce samedi matin. Elle est sur les routes en ce moment pour la promotion de sa comédie.
Oui.
C'est quoi cette mamie qui sort le 7 août ?
Oui.
Vous qui êtes une jeune mamie, Chantal Latsou, vous êtes quel genre de mamie ?
Je suis une mamie très mamie gâteau. Le problème, c'est que moi l'autre fois, il y a deux jours, j'ai voulu raconter le petit chaperon rouge à mon petit-fils. Alors je fais la grand-mère. Hein, grand-mère, très bonne comédienne, n'est-ce pas, voilà. Et je fais le chasseur, et je fais le loup. Le loup me dit, arrête, j'ai peur.
Bah, ça marche, c'est ce qu'on veut leur faire.
Mais c'est vrai que je commence à trembler, moi aussi. Mais oui, mais
Olivier Pouls avait les jetons un petit peu. Alors, c'est le moment de répondre aux questions que vous avez posées sur le 39-21. Amis auditeurs, vous le savez, hein, chaque samedi, vous avez la parole. Des questions sur les produits de saison, des recettes, l'agriculture. Eh bien, voici une première question au 39-21.
Salut la table des bons vivants, c'est Roxane, je viens de Nice. Et j'ai entendu la semaine dernière que vous parliez des glaces et j'avais une question. Je me demandais ce que c'était la différence entre les glaces à l'italienne et les autres glaces. Et aussi si on pouvait en trouver des artisanales. Voilà, merci beaucoup et bonne émission.
Alors c'est vrai qu'on a fait un gros dossier sur les glaces artisanales sans additifs, sans conservateurs, sans cochonnerie la semaine dernière avec Martine Lambert, Yves Condebord. On a parlé un peu des glaces à l'italienne. Il faut rappeler justement la base d'une glace à l'italienne qui est plus crémeuse, qui est plus onctueuse on va dire.
Hein. Oui, c'est une crème glacée qui est très molle, qui est servie avec un tourbillonnante un cornet. Mais c'est vrai que c'est des glaces, malheureusement, à ma connaissance, j'en connais pas des artisanales.
Ben non, elles sont toutes blindées d'additifs aussi.
Blindées d'additifs pour une bonne simple raison, c'est les fabricants de machines qui imposent les préparations aux gens qui achètent les machines.
Alors Martine Lambert fait des glaces à l'italienne artisanales. On en trouve quand même des gens aussi, des glaciers artisanaux en font. Mais c'est vrai que la majeure partie des glaces à l'italienne sont faites avec des additifs qui permettent justement de mettre beaucoup d'air et d'emprisonner beaucoup d'air pour garder cette texture
ça,
aussi.
En fait, c'est très flatteur parce que voilà, c'est très léger.
Très crémeux.
Mais c'est très crémeux et c'est très gras. Et il y a rarement des parfums naturels dedans.
Alors encore une fois, poser la question. Il faut discuter vraiment. C'est comme avec le boucher, c'est comme avec le boulanger. Il faut discuter avec son artisan glacier d'où viennent les produits, comment c'est fait, est-ce qu'il y a des additifs. Et vous allez tout de suite sentir si justement vous avez affaire à quelqu'un
qui va te le dire.
On va sentir s'il est à l'aise ou pas à l'aise quand même, franchement. Vous posez des questions comme ça quand vous
non,
allez
Non, mais moi maintenant j'ai une application sur mon portable et je clique. Et je vois mauvais. J'ai vidé toute mon armoire l'autre jour parce que tout était mauvais. Mais c'est incroyable, vous croyez que c'est des trucs bien, naturels, vous cliquez, très mauvais.
Vous avez Yuka, c'est ça?
Oui, Yuka, hein, voilà. C'est extra ça. Hein.
Ah oui, c'est bien ça. Hein.
Ah oui.
Mais pour les glaces, Laurent, il faut dire qu'une chose, c'est pas, la légèreté, le côté très, très léger, très moelleux, n'est pas un gage de qualité. Une glace, il faut qu'il y ait une mâche. Oui, je vais pourtant vous dire, il faut qu'on croque aussi un peu dedans.
Exactement.
Alors c'est sûr que c'est
un croquant.
Il faut
qu'il y ait de la matière.
C'est un croquant qui est très léger, mais il faut qu'il y ait de la mâche. Quand on mange du vent, voilà, ça reste
mais
du vent, c'est flatteur.
Comme une barbe à papa un peu.
C'est un peu comme une barbe à papa. Ouais. Et surtout en plus, le problème de l'addiction au sucre, c'est très sucré, très gras.
Très sucré.
Pour rentrer dans l'addiction.
Très très sucré.
Une autre question au 39-21.
Bonjour, Lily de Paris. J'ai une question pour la table des bons vivants. Alors j'adore les carottes râpées, mais j'aimerais connaître une autre recette de carottes pour l'été, chaude ou froide. Voilà, merci beaucoup.
Eh bien Lily, en vinaigrette, comme Yves Condebord l'a fait tout à l'heure. Olivier Pouls, tu as une idée de recette avec les carottes?
Cuite dans un jus d'orange.
Oui, dans un jus
tout
d'orange.
Simplement.
À la marocaine.
À la marocaine, c'est
avec
très bon.
Avec quelques épices, c'est délicieux.
Il ne faut pas avoir peur de la cuire entière.
Oui,
une poêle.
On la coupe simplement
voilà,
en deux.
Exactement.
On met du jus d'orange et on laisse cuire
et
tranquillement. Et on rajoute quelques épices à la fin.
Voilà. Et à la fin, ce que j'aime bien m'en mettre dessus, c'est un peu de pain d'épices.
Ah, c'est bien.
Carottes,
ça,
jus
c'est
d'orange,
très bon.
Pain d'épices, c'est trois saveurs qui marchent ensemble et ça vous fait une carotte un peu, j'ai envie de vous dire, elle est toute belle, quoi. Elle est frétillante, elle est fraîche,
elle est
gourmande.
Une carotte qui frétille,
elle
ça vaut le coup. Hein.
Et ça marche aussi avec de l'ail, effectivement, du jus d'orange, de la coriandre.
Mais c'est un peu triste sinon, c'est un peu cantoche.
Du gingembre.
Mais du gingembre, quand elle est relevée, la carotte, elle est au garde à vous hein, quand même.
Elle est au garde à vous.
Elle a des trucs à dire, la carotte. En sucré aussi, le carotte.
En sucré, c'est bon. Moi, je mets toujours un petit peu de sucre quand je fais des carottes comme ça, en glaçage.
Quand vous faites une salade de fruits, un petit sirop, 1 litre d'eau, 300 grammes de sucre, on fait bouillir, on met un peu de verveine dedans. Quand ça prend l'ébullition, on coupe des carottes en rondelles. On les poche, mais 2 minutes. On laisse refroidir tout ça et on met carottes, pamplemousse, fraises. Ça fait une petite salade de fruits un peu originale. La carotte qui est un peu sucrée amène aussi un peu de croquant. C'est très agréable.
Eh bien voilà, Lily de Paris, vous avez plein d'idées de recettes pour cet été. Et si vous avez des questions à nous poser, nous serons là tout l'été avec des émissions spéciales estivales et recettes d'été. Donc allez-y, le 39-21 est ouvert. Nous sommes avec Chantal là-dessous. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de la table des bons vivants. Et Chantal,
merci.
Nous allons vous connaître, vous découvrir de l'autre côté de la fourchette.
De l'autre côté du miroir.
Dans un instant, la Chantal cuisinière. A tout de suite sur Europe 1.
C'est avec beaucoup de rire que se finit cette dernière table des bons vivants de la saison. Et pour cause, votre invité Laurent, c'est Chantal là-dessous.
Absolument, Justine. Chantal Lapsou est à notre table ce samedi. Bonne vivante, pas du tout bagel. Elle mange de tout, Chantal.
J'adore tout, oui. Peut-être des choses... Il y a un truc que je ne supporte pas, en fait. C'est la cannelle.
Ouais, beaucoup de gens n'aiment pas la cannelle.
Quand une tarte aux pommes, les gens mettent de la cannelle dedans, c'est souvent. Ou dans un crumble. Je n'aime pas du tout la cannelle.
Mais sinon, vous mangez de tout.
Oui, en principe, je mange de tout. Oui.
Hein, vous avez été en partie...
Sauf les marrons. L'hiver, quand j'ai des marrons qui grillent sur des plaques en fer dans la rue, parce qu'un jour je m'en suis tapé, mais peut-être 10 cornets de marrons. Et ça m'a complètement rendu malade. Depuis, je ne peux plus supporter l'odeur, même l'odeur.
Mais attention, il faut que ce soit des marrons et des châtaignes comestibles, parce que les marrons des cours d'école, eux, ne sont pas comestibles, donc j'espère que ce ne sont pas ceux-ci que vous avez mangés.
Il faut les mettre dans les poches pour les rhumatismes.
Voilà, ça, à la limite, tout ça, c'est bien. Ah, ouais. C'est un truc de grand-mère, ça.
Ah
hein
oui, merci pour la grand-mère. Non, c'était mon grand-père qui me faisait ramasser des marrons pour me les donner, il les mettait dans ses poches. Il avait après des tout petits marrons, tout petits rabougris, parce qu'ils prennent ils prennent tout ce qui est mauvais de chez vous. Vous ne savez pas ça quand
même.
Je t'apprends quelque chose. Pas que toi, je vois. Bon.
Merci mamie.
Vous avez été en partie élevée par votre grand-mère, justement, dans le Nord. Mmh. Elle vous a laissé des choses comme ça, des recettes de cuisine que vous prétendez aujourd'hui.
Je sais qu'elle faisait la blanquette très bien à l'ancienne, la blanquette grand-mère. Elle faisait le pot-au-feu, tout ça. Donc ça m'est resté forcément des gâteaux, le gâteau au chocolat raté. J'adore faire ça.
C'est quoi le gâteau
au chocolat? C'est un gâteau au chocolat que je fais. Qui est à peine cuit et qui est formidable.
Ah, c'est bien, ça
demande. Ah, mes enfants l'adorent. C'est raté complètement, c'est dégueulasse, il y en a partout, mais c'est vraiment bon.
Et on mange à la cuillère, alors. Est-ce que vous aimez le vin, Chantal Lapsou?
Bien sûr, je ne m'y connais pas trop, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais j'aime bien le vin.
Alors, oui. Je vous présente justement Olivier Pouls, notre chroniqueur spécialiste en vin. Olivier, c'est l'été, on est au courant depuis quelques jours, il y a du soleil partout. Quelles sont vos recommandations en matière de vin d'été, Olivier?
Vous savez qu'il y a une saisonnalité, finalement, pour boire les vins, on l'a vu avec l'hiver, il y a quelques mois, on parlait de ces vins qui nous réchauffent, qui revigorent, mais c'est vrai qu'avec les températures qui montent, et surtout avec une alimentation qui est différente, qui est plus végétale, plus crue, etc., on va choisir des vins, on va dire, plus digestes et d'un profil un peu différent.
Alors, on commence par quoi ?
Le cubi de rosé, quand même pas mal du tout l'été, je trouve.
Alors, évidemment, c'est l'incontournable, c'est le grand classique. Mais Chantal, on a déjà parlé des rosés à cette table il y a quelques jours.
Bah, c'est tellement donc, frais.
Bah, on va parler des blancs et des rouges, alors.
Avec les glaçons, mais pour changer du rosé, justement...
Pas de glaçons, il n'y a plus rien dans le rosé.
Pas de glaçons, rosé.
Très frais, par contre.
Vous étiez mon ami jusqu'à maintenant.
De temps en temps, j'en ai mis. Alors, du coup, on évite le rosé, parce qu'on en a parlé il y a quelques temps, et on passe au blanc.
On va passer au blanc parce que ça symbolise quand même là aussi les vacances, ce petit coup de blanc bien frais à l'heure de l'apéro, quand on prépare le barbecue tiens par exemple, c'est vrai que ce sont des vins qui sont faciles à boire, qui nous rafraîchissent et il y a des vins que j'aime bien, alors il y a évidemment le pourtour méditerranéen qui sonne quand même l'été avec les vins du Languedoc, les vins de Provence, de la Côte d'Azur, ces côtes de Provence à base de cépage Roll, qui est un cépage qui marche très bien avec toute cette cuisine de l'été. Et puis moi j'aime bien les vins de la Loire aussi, les Loires blancs. Alors le Viognier, ça c'est plutôt la vallée du Rhône, mais dans la Loire on va trouver du Sauvignon, du Chenin, qui sont des vins qui aiment beaucoup la cuisine des légumes. Le Chablis aussi, c'est un beau vin d'été parce qu'il est tonique, il a une belle acidité. Et puis l'Alsace par exemple, le Sylvaner, qui est un cépage dont on ne parle pas beaucoup et qui marche très bien en été.
Alors les rouges aussi, ça peut marcher en été étonnamment. Moi j'aime bien ça, moi.
Oui, mais là, il y a vraiment une gestion de la température qui est très importante. Parce que quand il fait 30 ou 35 degrés dehors et que la bouteille est chambrée, franchement, ce n'est pas agréable. Donc là, pour le coup, pas de glaçons dans le vin, mon cher Laurent.
Ah non, pas dans le rouge, jamais, malheureux.
Mais
dans
en
le
revanche,
rosé, de temps en temps, allez.
Non, mais en revanche, un seau avec de la glace et de l'eau pour rafraîchir le vin qu'on va servir à peut-être 10-12 degrés. Mais comme votre verre est chaud et comme il fait chaud dans l'ambiance, ça va très vite remonter en température. Et puis là, bien sûr, ces rouges qui sentent la garrigue, qui sentent la Provence, qui sentent les vacances. Je vous en apportez un.
Bah oui, il est magnifique.
Voilà, le Kéran de mon ami Marcel Richaud, très grand vigneron.
Côte du Rhône méridionale.
Sentez comme ça sent... La garrigue, comme ça sent les herbes, comme ça appelle la cuisine d'été, ça. Et servi un petit peu frais, on l'a mis au frigo.
Il y a un petit côté confit. Hein.
Et après, il y a ce côté griotte, fraise,
fruit
qui est magnifique.
On parle de Kéran, il y a les frères de Lubac qui font aussi de jolis Kéran dans le coin.
Oui, absolument. Et puis pour terminer, tiens, une petite idée pour un apéritif original avec du sauterne. Parce que c'est vrai que le sauterne, ça, pour le coup, ce serait plutôt un vin d'hiver. Eh bien, essayez du sauterne. Et là, je vous l'accorde, 3 glaçons dedans. Quelques zestes d'orange que vous allez mettre dedans, là aussi, à infuser pendant quelques minutes. Et vous allez voir que vous avez quelque chose qui est digeste, très agréable et très estival.
Malheureux, pas de glaçons dans le sauterne.
Non, jamais pas de glaçons dans le sauterne.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir mettre des glaçons dans le vin, franchement.
Non.
Ça ne va plus. Allez, c'est l'heure de découvrir Chantal Lapsou de l'autre côté de la fourchette avec le questionnaire des bons vivants. Ma chère Chantal,
oui, je vous écoute.
Quel est le goût de votre enfance?
Le goût de mon enfance, le chocolat chaud. J'adore ça. Le chocolat chaud, l'odeur du chocolat chaud quand je goûtais. Et on préparait un chocolat chaud très épais. C'est très, très épais.
Ah oui, c'est gourmand, ça.
C'est gourmand. Et j'ai toujours ce truc-là. Hein. Moi, je m'arrête souvent dans les endroits où je mange un très bon chocolat chaud. Très épais, c'est très important.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable?
Mon repas de mariage. J'étais toujours debout.
Et vous avez mangé quoi?
Je me souviens même plus.
Ah, c'est dingue.
Ah, c'est dingue.
Jean-Pierre Pernaut, qui était la semaine dernière à votre place, a eu la même réponse. C'était son repas de mariage, mais il savait plus ce qu'il avait mangé.
Non, mais j'étais tout. Mais c'est vrai que c'était un repas champêtre, en fait.
L'amour vous aveuglait.
L'amour m'aveuglait. J'avais des fleurs dans les cheveux. J'étais habillée avec une robe de princesse fleurie. Et voilà, ça fait 47 ans, donc je m'en souviens plus.
47 ans.
Simplement,
avec Michel,
je me souviens de la journée. Oui.
Votre pire repas?
Dans le train, peut-être.
Ah, oui.
Le train s'est arrêté 6 heures, ils nous ont donné des boîtes.
Bienvenue au club.
Avec un vieux sandwich dedans.
L'ingrédient inutile, selon vous, en cuisine, Chantal Latsou?
Tout est utile, non? Le beurre, c'est magnifique.
Vous aimez tout, oui.
L'huile, c'est magnifique.
Quel plan emmèneriez-vous sur une île déserte, Chantal Latsou?
Une bouteille d'huile d'olive. Parce qu'on peut faire tout, on peut tout faire avec ça.
Vous allez cuire des poissons, ramasser, vous allez pêcher?
Cuire des poissons, on peut ramasser des trucs.
Ouais,
voilà. On peut ramasser des herbes, on peut mettre un petit filet d'huile d'olive.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Chantal Latsou?
Eindhoven, que j'ai entendu à la radio, parce que je comprends tout ce qu'il dit.
Raphaël Eindhoven, oui. Il vulgarise bien la philosophie.
Il vulgarise bien, c'est fou ce que je comprends. Et puis, il n'est jamais tranchant. Il dit oui, puis il dit non.
C'est un philosophe.
C'est un philosophe. Alors, Léonard de Vinci, parce que je suis allé jouer dans sa ville il n'y a pas longtemps, c'est un architecte, il était visionnaire.
À Chambord.
Comme j'ai quelques travaux à faire à la maison, je vais battre. Marcel Proust, parce qu'on me dit, mais lis Marcel Proust. Mais ça me tombe des mains.
Ben oui.
J'aimerais bien qu'il me raconte un peu l'histoire qu'il a racontée, quoi.
Ben c'est ça, pareil, moi j'arrive pas à aller au...
Oui.
Je fais les premières
pourtant,
pages et j'arrive
pas
à aller
au... Pourtant, il paraît
que c'est formidable.
Ben, il paraît.
Oui. On va
donc
le lire
cet
ensemble.
Été, on peut s'y mettre cet été.
On s'y met à deux.
Avec
hein
un petit coup de rosé.
Là,
j'ai le cubi.
Et sans glaçons. Et sans glaçons. Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Chantal Latsou?
Une omelette.
Bien, réussi?
Ah oui.
Oui, vous avez le coup de main pour la
j'ai
retourner.
J'ai le coup de main. Quand il y a une omelette à faire à la campagne, qu'il y a plein de monde, et ben, on dit, Chantal, tu viens faire l'omelette? Ah, je suis condamné. C'est vrai parce que j'ai le tour de main. Elle est baveuse et ferme à l'extérieur quand même.
Parfait.
Et pas trop cuite,
c'est
comme d'abord, t'es d'accord?
C'est exactement ça.
Voilà.
C'est que ça, baveuse. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Chantal?
Eh bien moi, c'est ce mot que j'adore, c'est à table. Parce que justement, c'est d'un seul coup, on arrête tout, on va aller à table, il y a une trêve. Quand ma mère me dit ça, à table, c'est extraordinaire. Moi, je dis à table quand j'ai ça, maintenant ils sont partis. Mais à table, c'est vraiment... Il y a les soucis, les machins, le travail, à table.
Le
et
début
puis on
d'un
finit
bon moment.
Toujours par s'engueuler, c'est ça qui est terrible.
Oui, mais on parle au moins. Eh bien, merci Chantal Latsou d'être venue à la table des bons vivants. On était ravis de vous recevoir. On vous retrouve le C'est Tout à l'affiche de cette comédie. C'est quoi cette mamie?
Oui.
Une comédie autour d'Aurore, cette grand-mère déjantée et fêtarde que vous interprétez. Merci infiniment d'être venue. Puis on vous retrouve aussi sur les routes avec votre One Woman Show qui
à
est un succès.
De septembre jusqu'à mars, oui.
On the road again.
On the road again, voilà.
Merci à Yves Candebord, Olivier Pouls, Marion Sauveur, la fine équipe de la rédaction avec Julien Amat et Lucille Escourou. Jean-Luc Arblade à la réalisation, Marie Jacquet à la programmation, les recettes et les références sur europe1.fr. Avant de se retrouver à la rentrée tous les samedis à 11h, on se retrouve tout l'été dès la semaine prochaine avec plein de conseils de recettes estivales avec la bande des bons vivants. Nous serons là tous les samedis de 11h à 12h30. Bon week-end, faites le marché.
Ah oui, le marché c'est
et
bien.
Et le reste?
La cuisine et le reste aussi.
Et le reste,
hein,
et le reste, oui.
Hein, y a plein de trucs à faire.
Il y a plein de trucs à faire, on peut se balader le long de l'eau et tout ça, mettre ses pieds dans l'eau par exemple. Ça,
bien,
c'est bien
sûr.
Voilà.
Bon week-end Justine, et à samedi 11h. Bon week-end sur les routes ou à la maison.
Bon week-end Laurent. À la semaine prochaine du coup pour votre émission qu'on retrouvera tout l'été et qu'on pourra réécouter comme celle-ci sur europe1.fr.